Live Nation Partie 2, c'est maintenant à fond dans tes oreilles.
Et oui, la Geek Nation est de retour pour cette deuxième partie à fond dans vos oreilles. Et évidemment, je suis toujours avec Raph. Salut Raph.
Salut les Gugus.
Et toujours avec...
Arnaud, bonjour.
C'est la joie.
Oui, c'est le bisu aujourd'hui.
C'est vrai.
Bon, alors, pour cette dernière partie de l'émission, je vous propose mon monde de geek du mois et un petit ABC gore. Vous êtes prêts?
Oui.
Ouais. Bon, eh ben on va commencer par ma chronique. Enfin, dès que j'arrive à retrouver mes sons.
E.T. téléphone, mes sons.
C'est ça, oui, James Mason, ouais.
Bref, on vous arrête plus.
Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Eh bien, c'est parti, je vous mets dans l'ambiance tout de suite. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un masque hanté, d'une momie qu'il ne fallait pas réveiller, de sous-sols interdits et de souhaits bien dangereux. Soumis à l'approbation de la Société de Minuit et de la Geek Nation, cette histoire s'intitule « L'histoire de chair de poule ».
Impeccable.
Chair de poule est une série littéraire fantastique et horrifique pour la jeunesse écrite par l'écrivain américain R.L. Stine, pour Robert Lawrence Stine. La série originale fut publiée de 1992 à 1997 et contint un total de 74 livres, suivi par plein de spin-offs intégrés ou non dans la série principale en France par l'éditeur Bayard Poche entre 1995 jusqu'à aujourd'hui encore. R.L. Stine peut être fier de son travail puisque la série Chair de poule ou Goosebumps en VO compte 350 millions de livres de la collection traduits en 35 langues à ce jour. Stephen King le considère même comme une version de lui-même pour la jeunesse. Mais à quoi ça ressemble, la chair de poule, au final? L'ensemble des tomes met en scène des héros différents dans des situations fantastiques, voire horrifiques, assez variés, mais ce sont toujours des enfants ou des adolescents qui sont confrontés à la peur. Stine utilise comme inspiration les principaux cauchemars de l'enfance pour construire ses récits. On passe pêle-mêle des traditionnelles momies, loups-garous, fantômes, voire même des marionnettes possédées. En glissant toujours des codes du roman d'initiation avec des valeurs amicales très fortes, la découverte du courage chez l'enfant ou l'ouverture d'esprit à la création et l'imagination. L'auteur aime les fins ouvertes, où le héros de l'âge du lecteur, pour faciliter l'identification, se retrouve confronté à un nouveau problème lié à son trauma, sans laisser au lecteur le loisir de découvrir le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire faire des fins ouvertes, quoi. Stine commence l'écriture de la saga Chair de poule dès 1992, mais son goût pour les histoires horrifiques commence bien avant. C'est en 1968 qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme, Jane Wildhorn, et qu'ils décident ensemble d'écrire des romans d'épouvante. J'imagine même pas comment ça doit être à la maison. Ils créent leur propre maison d'édition Parachute Press dans les années 80 et connaissent un premier succès d'écriture avec la série Rue de la peur, Fear Street en VO, qui a été adaptée en 3 films récemment sur Netflix. Après 1997, Stine ne veut pas arrêter Chair de poule et commence à rédiger des spin-offs et continue encore à ce jour. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. La série télévisée Chair de poule, qui adapta avec brio les romans de la saga de Stine. Mais avant, autant évoquer tout de suite les 2 films de cinéma avec Jack Black, pour le premier, que je n'ai pas vu. Les jeux vidéo littéralement oubliés de tous, qui sont aujourd'hui en abandonware, pour ceux que ça intéresse. Et même les jeux de société. Je m'arrêterai tout de même 30 secondes sur la nouvelle série Chair de poule dispo sur Disney+. Ma motivation pour cette chronique, je dois l'avouer, qui, même si elle a de forts accents de Stranger Things, se laisse dévorer sans modération. Je vous la conseille donc largement. La série, donc. Elle compte 4 saisons de 74 épisodes diffusés entre 1995 et 1998, et à partir de 1997 chez nous, sur France 2, dans la planète de Donkey Kong et KD2A. Je vous avoue, étant fan des minicums, je ne zappais que très peu sur France 2 et je n'ai que rarement vu la série à laquelle je préférais largement Are You Afraid by the Dark, diffusée sous le nom de Fais-moi peur sur la troisième chaîne. Mais les deux séries fonctionnent à peu près pareil. Ce sont des anthologies avec de nouveaux héros et de nouvelles intrigues à chaque épisode, évidemment inspirées par les romans de la série. Les producteurs cherchaient clairement à adapter fidèlement les tomes de la collection, mais se sont heurtés à certains problèmes liés à l'impossibilité de la transposition vers le petit écran. Certains livres n'ont donc jamais pu être adaptés comme il faut, comme La Bête de la Cave ou Méfiez-vous des abeilles, par exemple. Je vous renvoie à vos souvenirs de lecteurs pour comprendre pourquoi. Pour finir, je ne peux m'empêcher de vous dire qu'on retrouve au casting quelques comédiens qui ont une carrière pas trop dégueulasse par la suite. Notamment un certain Ryan Gosling ou Hayden Christensen. Voilà, chair de poule, c'est tout ça à la fois, mais c'est surtout pour moi une grande part de mon initiation à la lecture. Les livres qui ont fait de moi le lecteur passionné de science-fiction et de fantastique que je suis aujourd'hui. De grands souvenirs et de petites frayeurs inoubliables. Voilà. Chair de poule, ça vous évoque quoi ? À vous.
Chair de poule, ça m'évoque personnellement les premiers bouquins que j'ai aimé lire dans ma vie. Parce que j'aime pas la lecture, mais chair de poule, je sais pas, ça je me suis dit, ah ouais, ça a l'air sympa. Et puis je les ai toujours, j'ai dû en avoir allé dans ma vie 4 ou 5. Et puis des fois je passais dans des vide-greniers, je me suis dit, ah bah tiens, je vais m'en prendre un ou deux. Et puis voilà.
Il y a de quoi faire.
Je suis très loin d'avoir tout vu, hein, d'avoir tout lu, je veux dire. J'ai dû en lire 5 ou 7 à tout péter. Mais je serais incapable d'ailleurs de dire de quoi ça parlait déjà, parce que ça fait très longtemps que je les ai lus et je les ai jamais relus depuis. Mais je les ai toujours. Et puis c'est vrai que ça m'enchantait bien de lire ça. C'était très facile à lire. C'était des histoires assez intéressantes qui parlaient d'horreur ou de fantastique. C'était chouette, quoi. Je me souviens surtout, en tout cas, de deux qui m'ont toujours, comment dire, intrigué de par leur jaquette. C'était Concentré de cerveau et Un film d'épouvante. Je crois que c'est ça, ouais.
C'est ça.
Donc voilà.
Pour le peu, je me souviens des 74 titres. Mais ils sont toujours assez catchy. Je veux dire, il y en a un, c'est Le coup du lapin. Ouais, ne réveillez pas la momie. Ouais, attention aux abeilles tueuses. C'est toujours ultra catch.
C'est tout mystérieux.
Voilà, c'est ça. Et toi ?
Ben moi, ça me rappelle toute ma primaire, quasiment. J'ai fait que lire ce genre de trucs. Je crois que je les avais tous. Ou quand je les avais pas, j'allais à la bibliothèque. La bibliothécaire, elle avait marre que je vienne. À chaque fois, elle me préparait. Elle me dit, tiens, prends-le. J'ai tous lu. J'ai même acheté le jeu de société. Mais je me rappelle absolument pas comment il fonctionnait. Mais tu devais le construire. Il y avait un cimetière comme ça. Tu posais la pierre tombale. Il y avait un puits. C'était incroyable. Chair de poule, c'est des gros souvenirs de lecteur. Plus que la série. La série, je vais plus regarder Fais-moi peur que Chair de poule.
On est pareil. J'ai beaucoup lu les bouquins, ça c'est sûr.
Les bouquins, je les ai tous lus, c'est sûr et certain.
Bah, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à Stephen King et surtout à Lovecraft, en fait.
Ouais, bah, pareil. La même chose.
Et ce qui m'a donné le goût à l'écriture de ce genre d'histoire, en fait.
C'était très bien écrit, en plus. Hein. Je me souviens, ça se lisait bien. Et on apprenait des trucs à chaque fois.
Ouais, c'est très facile à lire.
C'est
pour ça que j'avais réussi à adhérer. Parce que,
Et c'est écrit comme des romans. C'est-à-dire que l'auteur ne prend pas les enfants pour des teubés. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas des pages entières où c'est que de l'exposition. Non, c'est vraiment écrit chapitre par chapitre, comme un roman pour adultes, en fait.
Et ce n'est pas écrit comme pour les enfants. Il y avait vraiment des trucs où tu te disais... Quand tu voyais les livres pour enfants à côté, tu dis non, un adulte peut très bien lire ça, il n'y a aucun problème. Quoi. Et à chaque fois, une nouvelle histoire. Ça, c'était trop bien, ça. Ça faisait un peu penser au conte de la crypte et tout. Ça, par contre, je regardais.
Ça, j'ai jamais vu le conte de la crypte. J'aimerais bien.
C'était génial.
L'inspiration de la série télé est vraiment là-dedans, en fait. Parce qu'on retrouvait R.L. Stein dans la série qui commençait les épisodes.
Oui, c'est vrai.
Sauf que ce n'est pas lui. Ils avaient engagé un comédien pour le faire. Ah. Pareil, quand ils avaient fait Aux Portes du Cauchemar, qui est aussi adapté de Stein, ils avaient pris un acteur pour jouer le rôle de Stein qui commençait chacune des histoires, comme la quatrième dimension, en fait.
Ouais.
Et le format anthologie pour les enfants, c'est vraiment les premiers à l'avoir fait, en fait.
C'est marrant, ça me rappelle Body Bags de Carpenter, justement. Oui, aussi. Carpenter, justement, il présente chacun des trois courts-métrages.
Mais Lucio Fulci l'a fait.
Fulci l'a fait aussi.
Dario Argento l'a fait.
Ah ouais ?
Oui, mais c'est que des films italiens qui ne sont pas sortis chez nous. Mais beaucoup de réalisateurs d'horreur se sont prêtés à l'exercice. Hitchcock, évidemment.
Ah oui, avec sa série. Ouais.
C'est deux séries, Alfred Hitchcock Present et Alfred Hitchcock Hours, ouais, qui sont un peu la suite l'une de l'autre. Mais c'est lui-même qui a inventé le truc. Même si, au même moment, tu avais Rod Sterling sur la chaîne concurrente qui faisait la quatrième dimension, c'est vraiment ces deux séries qui ont inventé les codes de l'anthologie.
D'accord.
Et qui ont inventé même les codes du fantastique à la télévision, finalement.
Ouais.
Il y a plein de moments dans toutes ces séries qu'on retrouve aussi dans Chair de Poule, etc. Parce que ça a créé des clichés qui sont tellement inoffensifs que tu peux les utiliser pour la jeunesse aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, ça terrorisait les gens de voir ça.
Ah, mais c'était un peu effrayant. Il y avait aussi Au-delà du réel.
Qui arrivait un petit peu après, The Outer Limits.
Avec un peu plus de budget.
Avec un petit peu plus de budget. Et surtout, ce générique qui disait « Ne réglez pas votre téléviseur ».
Chaque ligne verticale et horizontale.
Nous contrôlons chaque ligne verticale et horizontale, etc.
C'était génial.
C'était complètement dingue. D'ailleurs, en France, celui qui faisait ce tagline, c'était le mec qui faisait les alertes enlèvement.
C'est pas rassurant, du coup.
C'était Patrick Fleurshaim, la voix française de Michael Douglas, qui nous a quittés il y a quelques années, malheureusement. Mais voilà. On change une dernière fois d'ambiance. Je vous propose de passer à un jeu. Vous le connaissez. Ce jeu, c'est l'ABC Geek, qui devient, pour cette fois-ci, et uniquement pour cette fois-ci, l'ABC Gore.
Lettres, 26 réponses, 50 secondes. Relèverez-vous le défi de l'ABC Geek ?
Cette fois-ci, je vous laisse un peu plus de temps, puisque je ne vous propose pas des définitions, mais des énigmes. Pour trouver... Toutes les réponses ont un rapport avec l'horreur.
Okay.
Ne vous inquiétez pas. Ce sont soit des films, soit des gens, soit des choses que nous cherchons. Ou peut-être des créatures, je ne sais pas encore. Commençons par la première lettre de l'alphabet. Le W. Non, j'accorde. Le A, évidemment. Il est grand, menaçant. Il t'étrangle pour un rien. Et sa peau irait bien sur un sac à main.
Un alligator ?
Non.
Anaconda ?
Anaconda.
Ah, okay. Bon, ça marche aussi. Hein.
Oui, mais il n'y a pas de saga d'horreur à alligator.
Ah oui, c'est... Oh, enfin...
Anaconda, il y en a.
Oui, c'est vrai. Chez les nanars, on peut trouver, je pense.
En B. Sa sorcière, sa forêt et ses campeurs ont créé la légende.
Blair Witch ?
Ouais.
En C. Un film trop réaliste. Des animaux morts... Une femme Cannibal enceinte qui finit mal, je finis, et beaucoup d'estomacs à remplir.
Il faut attendre que tu finisses
oui,
pour dire
parce qu'il y a des vannes.
D'accord.
Donc
Cannibal Holocaust.
Ok. Maintenant, en D, c'est un jeu vidéo. Un manoir hanté, plein de pièges. Une blonde pas très expressive. Un jeu d'énigmes interactif, révolutionnaire.
C'est Night Trap ?
Non, c'est en D.
Daybreaker ?
Non.
Enfin, si c'est un jeu vidéo déjà.
Daylight ?
Non.
Detroit Become Human.
Une blonde pas très expressive, Sylvester Stallone.
Ah non, ça c'est Ivan Drago ça.
Death Trap ?
Non.
Aucune idée.
Avec un D ?
Oui.
Moi je connais Night Trap. Hein.
Non.
Et c'est tout. Mais c'est un FMV ?
Non.
Ah bah alors c'est
pas un jeu d'énigmes interactif, révolutionnaire. Mais tout est
Day
en 3D.
Day of the Tentacle ?
Non.
Dune ?
Non.
Non.
Tout est en 3D ?
Oui.
Un jeu d'énigmes ? C'est récent ?
Non. C'est un rétro. 94.
Ah oui, d'accord.
94.
La réponse est D.
Ah mais oui, d'accord.
De Kenji Eno.
Ah,
oui, D, c'est vrai.
D'accord.
La réponse D, oui.
Oui, la réponse D.
Ok, on repart sur du cinéma.
Il n'y a pas eu un rétro-découverte sur celui-là, il n'y a pas longtemps, je pense, c'est ça.
Une maison dans la forêt, un livre qu'il ne fallait pas lire.
Evil Dead.
Des ronces pas très sympas, je termine, et une caméra qui fait n'importe quoi.
Evil Dead.
Mais il a dit qu'il fallait attendre la fin.
F. Des zombies sur pellicule, des films plus que cultes. La Dolce Vita de l'enfer, quoi.
Fulci ?
Oui.
C'est quoi, ça ?
Lucio Fulci.
Réalisateur. Réalisateur de l'enfer des zombies et de quelques autres films. D'où les zombies sur pellicule, des films plus que cul, parce qu'il a fait un sacré paquet de films qui sont ultra connus. Et la Dolce Vita, c'est pour vous ramener vers le cinéma italien.
Ok, ok.
Ouais. En G, Nos rêves sont son terrain de jeu. Son histoire est un classique et ses victimes inoubliables.
Redis, s'il te plaît.
Nos rêves sont son terrain de jeu.
Kruger, Freddy Krueger.
Ouais.
Oui. Ah bah non, c'est pas du tout un G, ça.
Oui, mais en G, qu'est-ce que ça
Les griffes de la nuit, du
voilà.
coup.
Voilà.
Ah, les griffes de la nuit. Ah, je crois.
Mais Freddy Krueger, ce... Ouais. Ah bah non.
Non.
Freddy Krueger.
En H, ça vient de l'enfer. C'est même l'enfer. Le cube en est la clé. La tête de clou, le gardien.
Hellraiser.
En I, c'est dans nos rêves. Profondément dans les ténèbres. Une famille bouleversée. Un enfant piégé. Un père confronté au mal. En I.
Un père confronté au mal.
C'est récent.
Oh, comment ça s'appelle?
Non.
Tu peux redire? Si ça t'embête pas.
Je cherchais la feuille. c'est dans nos rêves. Okay. Profondément dans les ténèbres. Une famille bouleversée. Un enfant piégé. Un père confronté au mal. Ça ne correspond au scénar que du premier film, j'en ai vu que deux.
Okay,
okay. Ils en ont fait une saga qui doit être monstrueusement nulle vu les critiques aujourd'hui.
On dirait Poltergeist, mais c'est pas ça.
Ouais, non,
mais, non. Mais c'est inspiré de Poltergeist. Hein.
Ah, c'est Insidious.
Oui,
ah, c'est ça.
Oh j'ai toujours pas vu.
En J.
Le 1, eh bien.
Un tueur bien réel, des fans trop réels. Un procès trop médiatique, une série... trop sensationnaliste.
Jack l'Éventreur.
Johnny Depp.
Non.
Johnny Depp.
Non.
C'est le procès qui...
Je répète, un tueur bien réel. Des fans trop réels. Un procès trop médiatique.
Ah oui, comment il
s'appelle ? Une série trop sensationnaliste.
Jeffrey Dahmer, là ?
Oui.
Oh la vache !
En cas, il vient d'une île lointaine, oubliée de l'homme. Un lieu mythique à la gloire du roi qu'il est.
King Kong.
Joli. Joli.
En L. Je me suis fait chier, là. Ouais. Il est double. Se révèle une fois le jour passé. Une fois par mois, il est là à l'insu de son maître, à la recherche de nouveaux semblables.
Ok. Le loup-garou.
Oui, joli. Il est bon.
Ah, il est bon. Il est bon.
Il est très, très bien fait, là.
En M. Une face de cuir, une voiture en panne. Une famille pas ordinaire, des victimes trop innocentes.
Massacre à la tronçonneuse.
Oui.
Je l'avais pas du tout.
En même temps.
Phase de cuir.
Bah oui, j'y cherche Matrix dans ma tête.
Laserface.
Non mais ouais, totalement. J'étais sur Matrix.
Son nom a des siècles. Sa lecture rend fou. Personne n'y survit. La chronique des grands anciens en parle comme de l'arabe l'ayant écrit.
Ne seras-tu ?
Non.
Non, là, ça me parle ça. En N.
Oui, en N.
Il a des siècles.
Ah putain. Et ça me parle de ouf.
C'est une référence littéraire et cinématographique.
Ouais, c'est ça. Et moi, ça me parle en livre surtout.
Oui. Il est peut-être là.
Putain, je l'ai pas du tout.
Le Necronomicon.
Ah oui, c'est ça.
Redis
le Necronomicon.
Non mais je veux dire le
son nom a des siècles.
Ouais.
Sa lecture rend fou.
Ouais, c'est ça.
Personne
ouais.
n'y survit.
Ouais.
La chronique des grands anciens en parle comme de l'arabe l'ayant écrit.
T'es allé chercher ça où ?
Lovecraft.
Ouais, c'est Lovecraft. Par contre, le côté arabe de Lovecraft, je
l'arabe fou.
Ouais, j'étais pas. Ah ouais, putain, d'accord, OK.
En haut, messager de l'au-delà. Table des esprits, passerelle entre les mondes. C'est aussi une saga de film. Oui, et c'est aussi une mauvaise saga de film.
Le Ouija, c'est la table de Ouija.
En paix, elle est là, en chacun de nous. Elle nous habite, elle nous guide et nous protège.
On dirait la force.
La prostate. En paix.
Oui, elle est là, en chacun de nous. Elle nous habite, elle nous guide et nous protège.
La prophétie ?
Non.
La possession ?
Non.
La puissance ?
Non.
C'est quoi ? On cherche un film ?
Non.
On cherche un objet ?
Ouais.
Enfin, un concept.
Une chose, un concept.
Okay.
Ouais, un concept, on cherche un concept.
On cherche un concept. la foi, mais mal écrit.
Non, c'est pas la foi. C'est pas la poix.
C'est pas la foi. Comme le vietnamien. Non, je sais pas du tout, moi.
La peur.
Oh, ouais.
Elle est là en chacun de nous.
Totalement.
Elle nous habite, elle nous guide et nous protège. En cul, ne réglez pas votre téléviseur, vous y êtes déjà.
La quatrième dimension ?
Oui, c'est un petit mélange avec...
Bien joué.
En R, vous le savez, vous l'attendez, je suis totalement prévisible là-dessus.
Resident Evil ?
Oui. Hein ? Parce que voilà, Resident Evil, toujours Resident Evil. En S, un tueur masqué, des jeunes, pas fut-fut et beaucoup de cris.
Un tueur masqué.
Des jeunes, pas fut-fut et beaucoup de cris.
Scream.
Oui.
Bah oui. J'étais sur Jason Voorhees au début.
En T, elle est partout. Elle est tout le monde. Le froid polaire ne l'arrête pas, mais le feu ne l'aide pas.
The Thing.
Get ready.
Ah merde.
Oui, joli.
J'allais dire la chose, mais du coup, The Thing.
Oui, et Get Ready, c'est une référence à MacReady pour vous aider à trouver.
Ah bah ça m'aurait pas aidé.
Moi aussi.
Pas ça,
ah bien joué.
En U. Alors là, je suis allé chercher très loin.
Okay.
J'ai besoin d'un titre en anglais.
Okay.
On en parle comme ça pour rire, pour se faire peur, mais certaines sont bien réelles. Alors prenez garde, la ville aussi a ses mystères. Nous cherchons un titre en anglais. En U. C'est une saga de films d'horreur, ouais, ouais. Et c'est aussi un concept.
Underworld ?
Non. On en parle comme ça, entre nous, pour rire, pour se faire peur. Mais certaines d'entre elles sont bien réelles. Alors prenez garde. La ville aussi a ses mystères. C'est une saga de films d'horreur. Et le titre est en anglais, donc j'ai pas pu...
Underwater ?
Non. C'est en deux mots, mais non.
Ah, c'est en deux mots aussi.
C'est en deux mots.
Et en plus, je suis sûr qu'on connaît.
Essayez de comprendre ce que la définition voudrait dire, parce que la définition ne va pas vous envoyer vers la saga horrifique,
ouais,
va vous envoyer plus vers le concept, en fait.
Ouais, c'est ça. Déjà, chercher un mot en anglais qui commence par U.
On en parle pour rien, mais certains trucs sont réels.
Il n'est pas évident celui-là.
Ouais, j'ai galéré à le trouver.
Mais il est bien écrit en tout cas.
We speak about it like that. For smile, for laugh, to be scared. But someone's are real. So take care of your life. It is a mystery too. C'était pour le fun.
Franchement, là, je... peut-être plus d'indices, peut-être.
Le Yeti en est une.
UFO ?
Non.
Attends, le Yeti en est... Ah, Urban Legend !
Oui ! Okay. Urban Legend, la saga de films
d'horreur. Oui, c'est vrai.
Et tout ce que je vous ai dit vous ramène à la légende urbaine.
À la légende urbaine. Mais il me semble que les légendes urbaines, c'est des trucs plutôt urbains.
Oui.
Et le Yeti, c'est pas très
oui,
urbain.
Oui, mais c'était vraiment pour vous amener sur quelque okay. chose, en fait.
Bah, ça a fonctionné, apparemment. Mais...
En V, il est sa part sombre. Celle qui le révèle. Lui parle à son oreille et lui fait oublier ses grandes responsabilités.
Vampire ?
Non.
Du coup, c'est pas Jason Voorhees ?
Non, il n'y a pas Voorhees là.
V pour Vendetta ?
Non. Il est sa part sombre.
Ouais, ouais.
Celle qui le révèle, lui parle à son oreille et lui fait oublier ses grandes responsabilités.
En V, hein ?
Oui.
En V. Part sombre.
Venom.
Oui, joli.
Mais je cherchais le méchant Spider-Man.
Ouais, parce que ouais, je me suis dit, Oncle Ben.
Oui, j'étais sur le bouffon vert et je me dis, comment on dit bouffon vert en anglais? Vrin, alors. Pas trop.
En W, son Nosferatu est inoubliable.
Werner Herzog.
Oui, ça va.
Bien joué.
En X, celle-là, si vous l'avez, Elle est la sorcière de ce conte sans fin.
Xanadu ?
Non. Et laisse-moi finir. Elle est la sorcière de ce conte sans fin. Bastien la vaincra, mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Oh putain.
Je crois qu'il a la référence.
Ouais, j'ai la musique dans la tête, là, ça y est. Mais comment ça s'appelle celle-là ?
En X.
En X. Xantia ? Non,
non, non, c'était pas une Citroën.
Je m'en rappelle.
Est-ce que toi, tu as la référence ?
C'est l'histoire sans fin, ça.
Alors oui, c'est l'histoire sans fin.
Ah oui, bah alors j'ai pas du tout la référence.
Ah putain, je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle.
C'est dans le dessin animé et ouais. C'est la méchante du deuxième film.
Je l'aurais pas. Je me rappelle
c'est
plus du tout.
C'est la sorcière Xaïd.
Xaïd, ouais, tu vois, j'étais plus là.
En Y, Disney s'y est essayé. Il a foiré. Mais ce film n'est pas à oublier. Bette Davis pourrait vous le confirmer. Vous l'aurez pas.
Bette Davis. C'est un gars ou c'est...
Non, c'est une femme, Bette Davis, okay. C'est une actrice. Qui joue dans ce film d'ailleurs. Mais vous l'aurez pas, je pense.
Ah bon ?
C'est parce que vraiment j'ai galéré en Y et c'était la seule option que j'avais.
Donc si j'ai compris, Disney, ils en ont fait un film, mais c'était naze.
Oui, mais okay. Disney s'est carrément essayé à faire un film d'horreur avec ce film et ils ont plus jamais tenté.
Ok. Quelle année à peu près ?
1980. C'est l'époque où Disney faisait n'importe quoi.
Ouais.
C'est l'époque de Tron, du Trou Noir,
d'un autre film
d'épouvante qui s'appelle La Foire des Ténèbres, de Oz, un monde extraordinaire aussi. Ouais, non, c'est Les Yeux de la Forêt,
non,
que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez jamais vu.
J'ai jamais vu.
En Z, vous l'attendez, sûr. En tout cas, eux, ils vous attendent. Le cerveau est un mets délicat pour eux.
Zombie.
Voilà.
Oh, bien joué, j'étais pas du tout. je me disais, comment ils s'appellent les mecs dans les invasions des provélateurs de sépulture ? Je vois pourquoi je pense à ça.
Bon, bien, j'espère que ça vous a plu.
Très sympa.
Que cet ABC Gore vous aura donné des idées de films à regarder ou de références à retrouver. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. C'était notre émission spéciale Halloween. Courte mais efficace, on va dire. Et vous, vous êtes content ?
Ouais.
C'est bientôt Halloween, donc oui. Toujours.
Toujours.
J'ai hâte d'avoir des caries. Mais pas d'aller au bal du diable.
Ah, ça. Tiens, pour finir, si vous aviez à conseiller un film, un jeu d'horreur pour Halloween.
En dehors de SCP Containment Bridge.
Oh oui, carrément, oui.
Ah oui, justement, j'en avais un. Je me suis
et même
dit,
des pourquoi... films, si vous avez.
Moi, je conseille, ouais. Personnellement, Bloodborne. Je sais pas si vous y avez joué.
Bah,
mais Bloodborne, c'est incroyable. Pour Halloween, je pense que c'est très pertinent. C'est un univers un peu Lovecraftien, quasiment.
Vraiment, oui.
Avec
c'est Dark Souls, ouais, c'est Lovecraft.
Bloodborne, j'ai tendance à penser que c'est le meilleur des Dark Souls.
Ouais, il y a de ça.
Ouais, ouais. Et non, c'est un jeu avec une ambiance incroyable et je pense que là, en ce moment, c'est pertinent. J'ai hésité à faire ma chronique dessus, mais je me suis dit que déjà, beaucoup de gens connaissaient, donc autant faire découvrir quelque chose. Mais Bloodborne.
Un film à conseiller, peut-être ?
Un film à conseiller ? Bah, je crois que moi, je vais me remater Fantôme contre Fantôme.
Ah, Michael ouais, G. Fox.
Voilà, c'est ça. J'aime le remater, je vais le DVD à la maison.
Raph, film, série ?
Bah déjà, de toute manière, film, mais un film d'horreur pour Halloween. Parce que bon, on va éviter de dire tout ce qui est Jason, Freddy, l'exorciste, etc. On les connaît bien assez, je pense.
Ouais.
Mais je sais pas, laisse-moi réfléchir deux petites secondes. Je dirais quand même L'échelle de Jacob, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à vraiment oublier ce film, même s'il y a eu un regain d'intérêt pour ce film, mais j'ai l'impression que... Peu de gens connaissent, enfin, il y a encore peu de gens qui connaissent trop bien ce film, alors que c'est un merveilleux film sur la paranoïa et sur les visions que tu peux avoir après la guerre du Vietnam, avec un Tim Robbins absolument magistral.
C'est vrai.
Voilà, il y a ça. Et sinon, si vous voulez bien vous éclater, matez-vous la trilogie, la toute première trilogie de Peter Jackson, à savoir Branded, Bad Taste, Les Feebles. Pour Halloween, c'est parfait.
C'est vrai.
Je confirme.
C'est vrai.
Bon, moi, je vais sortir un peu des sentiers battus. Il y a quelques années, j'ai découvert un film qui m'a laissé complètement sur le carreau. Franchement, j'ai failli gerber à la fin tellement c'était glauque.
Ça veut dire qu'il était bien.
ce film, c'est un film japonais
oh.
Qui s'appelle Evil Dead Trap.
Je
qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Evil Dead Trap 1, 2 et 3. Hein. Okay. Je ne vous fais pas de dessin. Ces films sont les précurseurs de ce qu'aujourd'hui on appelle le torture porn.
Ok.
Saw n'a rien à envier à Evil Dead Trap. Le film date de 1988. C'est l'histoire d'une équipe de journalistes du journal télévisé japonais qui se retrouve en possession d'un snuff movie tourné dans une espèce de hangar où ils ont, on leur donne également tous les indices pour retrouver le lieu. Et ils s'y rendent. Et si je vous disais qu'ils se font découper, c'est un putain d'euphémisme. Jamais vu un film aussi efficace et aussi compliqué. Et surtout à regarder. Vous le savez, j'imagine, que quand il s'agit de tester un truc un peu déviant au cinéma, on engage beaucoup des acteurs porno.
Oui, c'est vrai.
Et ben là, ils l'ont fait. Ils ont tourné des scènes de meurtre et de nudité en même temps. C'est particulier, c'est osé, c'est ouf, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Les suites sont anthologiques, c'est-à-dire que ce n'est pas directement la suite du premier film, on est sur un autre tueur, une autre histoire, mais toujours dans les mêmes codes. À chaque fois, c'est un réalisateur différent. Un jour, j'en parlerai, mais pas sur YouTube. Je ne peux pas.
Ah ouais ?
Décemment, c'est impossible.
C'est trop graphique ?
Totalement. Okay. Jamais vu un film aussi graphique que celui-là, je pense. Okay. Même Saw, c'est un peu...
Ce qui est paradoxal pour tous les films, en fait.
C'est un peu ça, le problème, ouais. C'est une ambiance de fou. Il y a beaucoup de sombre, de lumière bleue. Enfin, c'est très recherché aussi. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un snuff movie en mode, bon, bah, on fait juste du gore pour faire du gore et débrouillez-vous avec ça. Non, il y a une recherche visuelle, il y a une recherche au niveau esthétique, il y a une recherche complète au niveau musical. La musique que vous avez entendue, d'ailleurs, pendant ma chronique Char de Poule, celle-ci...
Ah, elle est super.
C'est le thème principal d'Evil Dead Trap. Qu'on entend régulièrement dans le film et qui remet toujours dans cette ambiance poisseuse et complètement folle.
Elle est impeccable, cette musique.
Donc, si vous avez le cœur bien accroché, je vous invite à découvrir cette saga, surtout le premier, qui est vraiment allé au-delà des curseurs qu'on peut imaginer aujourd'hui. Okay. Et mon autre conseil, ce serait les making-of de la saga Saw. Pas la saga Saw, parce que tout le monde l'a déjà vu, j'imagine, et il n'y a pas grand-chose, mais... Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment est-ce qu'on crée tous ces pièges,
ouais,
véritablement ?
Ouais. Faut demander à un des fils d'un des producteurs et il t'en fait un, à l'âge de 7 ans, c'est
faut
normal.
Voilà. À Michael Culkin aussi, il doit savoir.
Ces making-of, c'est l'occasion de découvrir comment est-ce qu'une équipe d'effets spéciaux pratiques travaille aujourd'hui pour créer des trucs de magicien.
Parce qu'ils sont ouf, les effets spéciaux.
Parce que
dans ce film, quand même.
Quand vous voyez, par exemple, j'en prends un au hasard, là, je ne sais plus dans quel film, il y en a tellement, où un personnage se retrouve bloqué dans un cube qui se remplit d'eau. Eh bien, l'acteur est vraiment en train de se noyer. Sauf qu'il y a un dispositif caché pour que ça n'arrive pas. Mais tout doit être fait pour que l'acteur soit en sécurité, mais pour que visuellement, ce soit horrible. Eh bien, les équipes d'effets spéciaux ont tout fait pour que ça soit le cas. Il n'y a pas d'effets spéciaux numériques dans Saw. Tout est ce qu'on appelle pratique.
Sauf dans Saw 3D, mais oui, ça c'est une autre histoire.
Sauf dans Saw 3D, parce qu'ils étaient obligés à cause de la 3D. Mais jusqu'à Saw...
6.
J'ai pas envie de le dire. J'avais pas envie de le dire.
Ouais, c'était une vraie broucherie.
Jusqu'au sixième épisode de Saw, tout était fait en effet pratique. Les making-of sont impressionnants, surtout pour ceux qui aiment le cinéma, qui aiment le cinéma d'horreur, qui ont envie d'avoir quelques petites idées. Parce qu'on est plus, on est même au-delà du niveau de travail de VFX, on est vraiment sur du travail de magicien pour trouver toujours des trucs pour que ça se voit pas, mais qu'on puisse créer une illusion.
Ouais.
Et c'est vraiment du travail à l'ancienne, et ça, c'est franchement cool. Digne de ce que pouvait faire Phil Tippett ou Ray Harryhausen dans les années 60, 70 et 80. Bref, est-ce que vous avez un dernier mot ?
Halloween ?
Bon dernier mot.
Diabète.
ça, c'est ce qui t'attend dans 3 jours. En attendant, bonne soirée, bonne fête d'Halloween. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Geek Nation, toujours plus de nouveautés. En attendant, portez-vous bien. Mangez pas trop de bonbons, regardez des films d'horreur, jouez à des jeux gore, et à la prochaine.
Soyez heureux.
C'est ça.
Oh non ! Oh bah ça va alors. À la prochaine.
Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine!